Tu écoutes CFLC Balado.
La radio de ton magazine qui fout la chienne.
Avec Pierre Duquet et Lucas Jalbert. D'après le magazine et la websérie de Lucas Jalbert et Samuel Roy. Disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Une présentation de Cabron Productions.
Salut et bienvenue à CFLC Balado, la radio de l'univers jeunesse interactif. Ça fout la chienne. Bonsoir Pierre Duquet.
Mon Dieu, tu es déchaîné, Lucas.
Oui, tout à fait. Ça va bien?
Oui, ça va très très bien.
D'entrée de jeu, joyeux anniversaire.
Merci bien.
C'est ce soir, oui. 1er novembre.
1er novembre, en effet. Alors, bonne fête à Pierre. Bonne fête à Pierre. Bon, OK.
Il y a peut-être une momie qui va venir nous chanter bonne fête
oui.
en cours de route.
Oui, tout à fait, parce qu'en ce qui me concerne, moi je vais parler du Matin des magiciens, qui est un ouvrage qui est paru il y a plusieurs années. Je vais parler des pyramides.
Oh.
Et toi, c'est tout à fait logique, moi je parle des pyramides, et toi tu vas parler de ce qu'il y avait, de ce qu'il y a dedans, et ça a donné lieu, les momies, à des films, à des histoires d'épouvante, et même dans le réel, il y a eu des légendes peut-être urbaines,
des malédictions, etc. cachées dans le sable du désert.
Tout à fait. Alors, et dans l'actualité, je pense que tu as pas mal de choses.
Oui, on lance immédiatement le bloc actualité.
C'est parti!
L'actualité qui fout la chienne.
Alors, d'entrée de jeu, pour le bloc actualité, eh bien, j'invite les gens à aller sur notre chaîne YouTube Ça fout la chienne, ainsi que celle d'Horreur Québec, parce que depuis deux jours, en fait, le 30 octobre dernier, la deuxième saison de la websérie Ça fout la chienne est maintenant diffusée. Donc, deux épisodes d'un coup qui sont parus le 30 octobre dernier, et vous en aurez cinq autres ce printemps, au mois de mars, aux alentours de la semaine de relâche. Alors, je vous invite déjà à aller visionner le tout. Et d'ailleurs, à ce propos, les jeunes de la websérie ont foulé le tapis rouge lors de la soirée qui fout la chienne le 5 octobre dernier.
Oui, puis en plus, j'ai eu le plaisir de les interroger, c'était mignon.
Absolument, et d'ailleurs, on en a ramené des extraits sonores qu'on vous fait entendre à l'instant.
Alors, est-ce que vous voulez donner à tour de rôle vos impressions à votre tournage?
OK.
Oui, toi, tu es?
Milan Toupin.
Et puis, comment t'as trouvé ça?
Bien.
Oui? Pas plus que ça?
Ben, c'était le fun.
Oui, est-ce que t'étais gêné? Non? Est-ce que tu voudrais devenir un acteur? Oh, oh! Et toi?
Ouais, je m'appelle Élie Dupin, puis ouais, j'ai pas mal aimé ça, c'était cool. Moi, c'est Jeffrey Simoneau, puis c'est vraiment cool de tourner parce que c'est vraiment des bons moments, c'est le fun. Puis...
Et moi, je t'ai vu te faire prendre au collet et monter sur une colonne. Tu as eu peur?
Pas vraiment, mais quand même un peu. Là.
Ton nom?
Oui, Édouard Brisson.
Édouard?
Brisson.
Brisson, OK. Et t'as aimé ton... Le tournage?
Oui.
C'est celui qu'on va voir ce soir?
Oui. Ouais.
Okay. Et toi, tu es un vieil habitué?
Oui. Ben, c'est ça. C'est la deux fois, c'était la deuxième fois que je faisais un tournage. Puis, c'est ça, j'ai vraiment aimé
ton
ça.
Nom?
Adrien Bégin.
Adrien Bégin, pour qu'on vous reconnaisse. Il me semble qu'il y a un air de famille ici, là.
Non.
Je me dirais quand même. Hein?
Je m'appelle William Bertrand. Ouais. Puis, j'ai vraiment aimé ça, tourner les épisodes, malgré des. Mes aventures, exemple, me rater ou quelque chose comme ça. Là.
Oui, ça, c'est normal.
Ouais. Fait que j'ai continué. Puis...
Et toi, ton nom?
Mon nom, c'est Joseph Bédard. Tourner avec Lucas, pas une tâche. Pour moi, c'est plus un privilège.
Et un plaisir aussi, j'espère?
Ben, ouais, c'est sûr.
Ouais.
Puis, il n'y a rien que j'ai pas aimé d'un tournage, pour les mouches.
Ah oui, ce qui est très drôle.
Les sacrés mouches.
Pour anecdote, c'est que l'épisode, lui, qui va sortir un peu plus tard cet hiver, c'est que, oui, il parlait des mouches, mais c'est parce qu'il était englué un peu de faux sang que j'avais fait, mais tu sais, le mélange de miel, sirop d'érable et tout ça, donc ça a attiré. Ils sont partis avec. Au revoir! Au revoir, Joseph!
Et toi, ton
nom? Élie Gosselin. J'ai aimé le tournage comme une anecdote, comme Joseph, le froid avec mon habillement...
C'était pas chaud, hein?
Non, c'était pas chaud.
Toi, c'était un tournage d'hiver?
Printemps, disons.
Printemps ou automne, je me souviens plus.
Printemps, ouais, automne, plutôt. J'étais en genre de camisole, puis il faisait vraiment froid. il y avait la scène avec la voiture, et avec la fin du tournage, j'avais vraiment froid. Il me manquait une couverte, puis j'étais bien.
J'ai comme l'impression que tu aimerais devenir un acteur, toi aussi. Est-ce que je me trompe?
Non, non, tu te trompes pas. J'aimerais bien.
Bon, mais c'est un calabinette pour ça. Et je me souviens d'un tournage à la maison chez moi.
Nadine Simoneau, moi, je fais 2 ans que je travaille avec toi. Hein?
Je pense que oui.
Oui, 2 ans. Puis cet été, nous, l'anecdote, pardon, c'est que les enfants sautaient sa trampoline et la trampoline a fendu et mon Lucas qui est en dessous en train de filmer. Honnêtement, tourner avec lui, c'est vraiment un cadeau.
Eh bien voilà, alors un aperçu de tous les jeunes, peut-être futurs acteurs qui auront commencé leur carrière à Lévis sous le regard de Lucas Jalbert.
C'est drôle pareil.
Il y a des futurs acteurs là-dedans, comme je le disais.
Ah oui, puis en plus, parce qu'il y en a qui étaient, il y avait l'air un peu gêné, mais ouais. Sur les plateaux, c'est des machines. Là.
D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent en ce qu'on pourrait appeler maintenant le CFLC Balado Vidéo,
oui.
Hein, sur la page Fou la chaîne, Cabot Productions, Pierre Duquet, Facebook et YouTube, on a vu les jeunes hommes. Là.
Oui, on les voit, il y a les photos qui ont été prises lors de ton entrevue avec eux, et vous pourrez mettre le visage sur les voix. Et également, lors de cette soirée, on avait c'était l'occasion de rencontrer des auteurs d'épouvantes, d'horreur jeunesse, mais aussi adultes qui étaient sur place. On n'a qu'à penser à Caroline Chouinard, Marie-Lou Addison, Frédéric Raymond, Guillaume Demers, Pierre-Luc Lafrance, qui donc on avait aussi... Ah oui, notre chère France Gosselin qui est toujours partante dans nos
projets.
Oui, la Lévisienne, bien sûr. Alors, tu les as tous interrogés où on avait aussi un peintre, Saganasqual, et notre invité qui avait son bazar de l'horreur, Danny Drouin. Donc, tu les as rencontrés sous forme de panel, tu leur as posé quelques questions.
Et on va entendre quelques réponses ici et là.
Et voilà.
Oui, je m'appelle Pierre-Luc Lafrance, je suis écrivain, bien sûr, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Je suis aussi enseignant, j'ai été longtemps journaliste, je suis à temps partiel chasseur de monstres et à temps plein père de petits monstres.
Je vais revenir pour les questions.
C'est bien dit, oui. Alors, moi, je m'appelle Marie-Lou Addison, je suis auteure autant jeunesse que nouvellement adulte aussi. C'est mon travail à temps plein. Alors, j'ai pas d'autre chapeau que d'être auteure à temps plein de littérature, mais je suis quand même maman aussi, là. C'est pas rien.
Et on a un papa ici, non?
Oui, en effet. Papa de 3 charmantes petites filles. C'est ça. Donc, j'écrivais de l'horreur pour les adultes. Puis là, quand j'ai eu des enfants, on m'a dit, papa, j'aimerais ça lire ce que tu fais. Donc, je me suis mis à écrire pour la jeunesse aussi. Donc, j'écris pour les grands et pour les petits des romans d'horreur. J'ai une série jeunesse qui s'appelle La rue du lac Frisson. C'est l'histoire d'un garçon qui vient de la ville puis qui arrive dans une rue bordée de forêt qui est enfin inspirée de la rue de mon enfance. Puis là, quand il se promène dans la forêt près de chez lui, il est super content. Il y avait juste des ruelles avec du bitume là puis du béton. Puis là, quand il arrive dans cette maison-là, il va se promener dans le bois puis il tombe face à face avec un arbre qu'il trouve vraiment effrayant. Donc, l'arbre maléfique, qui est le titre du premier tome. Donc, il va enquêter sur l'arbre, aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il va se retrouver face à face avec une créature à laquelle il ne pouvait pas s'attendre. Puis dans ce livre-là, j'ai mis tout mon amour des arbres monstrueux. Moi, les arbres vivants, j'aime ça. Puis que je suis tout petit, mais j'ai jamais trouvé de livre ou de film d'horreur qui rendait vraiment hommage aux arbres maléfiques. C'est ce que j'ai mis dans ce premier tome de la série-là.
OK. Et vous, c'est les monstres aussi?
Les monstres humains, disons.
Humains, oui, c'est vrai, il y en a.
Oui, effectivement. En fait, là, moi, je viens de publier, j'ai quelques romans qui viennent de sortir dernièrement, mais j'en ai un que j'ai apporté ici, plus horreur, c'est pour adultes. Ça s'appelle Bouche cousue. Et ça, c'est vraiment, c'est l'histoire d'une... Là, toi, tu veux pas le savoir, là?
Ouais, attends, ma bouche, t'es
c'est ça, il voulait pas que je lui en parle. Mais c'est l'histoire d'une femme qui a un trouble d'amassement compulsif. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est les gens qui accumulent dans leur maison.
Oui.
Et là, moi, j'imaginais une maison avec des sacs partout accumulés, tout ça, puis elle est incapable de circuler d'une pièce à une autre tellement il n'y a pas de place pour marcher. Et sous toutes ces couches de crasse-là, il y a caché des cadavres. Oh. Parce que je me disais, mais quel est le meilleur endroit que de cacher des cadavres dans une maison sale, qui pue, puis que personne ne va aller fouiller.
De mon côté, j'ai publié 7 ou 8 livres, je ne me souviens plus, autant pour jeunes que pour adultes. Puis c'est ça, la plupart touchent à l'horreur. J'en ai qui touchaient aussi là, de la parodie de Contes de fées, mais ce que j'en ai ici ce soir, là, c'est plus les romans d'horreur. Pour adultes, j'ai un livre qui s'appelle L'arracheur de rêves, qui est un mix à mi-chemin entre le recueil de nouvelles et le roman, dans le sens qu'il y a une grande histoire qui vient englober toutes les nouvelles, qui sont des nouvelles fantastiques, dont plusieurs font découvrir certains monstres ou certaines parts obscures. Et plus ça va, plus on va vers l'horreur.
Le milieu de l'oral littéraire au Québec a beaucoup évolué depuis 10 ans. Quand j'ai fondé la Maison des Visseurs, le but, c'était de dire, hey, il n'y a pas d'oral, il n'y a pas d'éditeur qui dit, moi, je fais ça. Puis je mets des livres avec une couverture qui dit « Voici un roman d'horreur ». Puis si c'est très pour adultes, on le dit que c'est vraiment de l'horreur pour adultes. Mais maintenant, il y a plusieurs autres maisons d'édition qui le font. Il y en a plusieurs qui ont des collections.
Alors donc, Guillaume Demers, qui vit à Québec?
Oui, tout à fait, depuis 15 ans maintenant. J'ai surtout de la bande dessinée, mais je suis illustrateur, donc j'ai des ouvrages avec d'autres auteurs en parallèle.
Et France, il y avait des choses pour les jeunes qui n'étaient pas d'épouvante ou d'horreur au départ, si je me souviens bien.
Oui, c'était la trilogie La Fraternité du Rock, aux éditions Espoir en Cannes, que c'est ça, en 2014, là, le premier de la trilogie.
Là, vous êtes passé, vous avez glissé vers l'épouvante, l'horreur, quoi, le mystère?
Oui, c'est de l'épouvante, jeunesse. C'est un naturel pour moi. C'est quelque chose qui j'avais vraiment hâte de faire. Fait que oui, de la musique j'aime beaucoup, mais l'épouvante, oui.
Concernant Caroline, vous en avez déjà trois. Vous en avez combien à votre actif?
Plus d'une trentaine. Mais pas tout en horreur. J'ai un peu de tout. L'aventure, du fantastique. Certains romans où c'est plus réel, donc un petit peu de tout.
Jeunesse, adulte?
Plus jeunesse, oui.
Plus jeunesse? Oui. Okay. Et puis on a un illustrateur.
Oui, je fais des illustrations au magazine, quelques livres aussi, en musique aussi, pour des disques, des t-shirts, tout ça. Là. C'est pas mal mon médium classique, ou dessin mélangé avec peinture, tout ça retravaillé par informatique, donc remonter, tout ça.
J'essaie pas nécessairement de sortir du lot. Moi, je suis une personne très peureuse.
Et, ça peut aider.
Ben oui, c'est ça. En fait, je suis un peu dans les classiques, comme le deuxième frisson que j'ai sorti, qui est une histoire de poupée maléfique. Ben, j'invente rien, mais c'est un classique. Puis moi, je trouve que la peur, c'est beaucoup dans une porte de garde-robe ouverte noire. On n'a pas nécessairement... Je pense que c'est plus dans l'ambiance qu'on crée, essayer d'écrire de façon à garder un suspense, à apporter des frissons. C'est vraiment plus dans l'ambiance que le thème. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des super idées, puis bravo. Mais je suis pas encore rendue là.
Alors, on est à la soirée qui fout la chienne, la première édition, et la table ronde va être sur le cinéma, oui. Le cinéma d'épouvante. Alors, on a avec nous Francis Blais, qui est le programmateur exclusif de la soirée.
Eh bien, bonsoir. Ben oui, effectivement, je suis Francis Blais, je suis programmateur pour la soirée qui fout la chienne. D'habitude, je programme pour le Congrès Boréal, qui est mon petit bloc de films qui s'appelle L'heure du cours. C'est des films d'horreur, de science-fiction et de fantastique. Ce soir, on m'a demandé de faire un bloc d'horreur 100% francophone. À son meilleur. Ben oui, c'est de très bonne qualité ce que vous allez voir ce soir. Par contre, on a la chance de recevoir une réalisatrice et un réalisateur, les réalisateurs de respectivement Cordyceps et Coma, en provenance de Montréal.
Alors, de quoi s'agit-il comme film, le vôtre?
Ah, c'est mon film, c'est l'histoire, je vais devoir vous le résumer comme vraiment un tout petit, parce que c'est un film seulement de 30 secondes, fait que je peux pas trop en dire.
30 secondes?
Oui, c'est seulement 30 secondes mon film.
Est-ce que le titre est plus court ou plus long?
Je pense que le titre est plus long. fait que c'est vraiment brièvement, c'est l'histoire d'une spéléologue qui fait une découverte dans une grotte, puis cette découverte-là, c'est une découverte spéciale, disons. Je peux vraiment pas vous en dire plus que ça. Cordyceps, c'est le nom d'un champignon, en fait. C'est un champignon qui existe pour de vrai dans la nature, mais si je vous dis qu'est-ce qu'il fait, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe dans mon film. Donc je ne peux pas vous le dire plus que ça.
On va le savoir en 30 secondes.
Ouais. Ouais, en 30 secondes, vous allez savoir qu'est-ce que le champignon fait dans la nature et qu'est-ce qu'il va faire dans le film.
C'est inquiétant. Et tu t'appelles?
Je m'appelle Émilie Dubois-Perra, puis j'ai étudié au Cégep du Vieux-Montréal. C'est grâce au Cégep que j'ai fait ce film-là. C'était le projet synthèse du programme.
Et c'est le premier à date ou comme court-métrage?
Moi, c'est mon deuxième court-métrage, mais c'est mon premier court-métrage en 3D uniquement. Puis c'est mon premier court-métrage d'horreur. C'est le premier que j'ai... c'est ça. Le premier film que j'ai fait, c'était en 2D, puis c'était une comédie.
Et vous?
Ben moi, c'est Jérémy Pagé.
Émilie a pas mal tout dit. J'ai fait partie du programme d'animation aussi.
OK.
Moi, c'est mon premier court-métrage en 3D aussi.
D'une durée de
30 secondes aussi. Oui, parce que c'est
court.
Oui, parce
c'est
que
des bandes annonces.
C'est déjà un gros défi de faire 30 secondes d'animation 3D parce qu'on modélise tous les personnages, on fait tout, absolument tout, par la musique.
Et son titre?
C'est Coma.
Coma.
Oui, c'est. Comment je pourrais dire? C'est l'histoire de. Comment? L'histoire de quelqu'un qui se réveille dans un endroit vraiment étrange.
Oui, c'était une belle brochette. Hein,
absolument. Et on pourra peut-être entendre l'intégralité des rencontres avec eux que tu as fait, peut-être sous forme de capsule vidéo dans les prochaines semaines, prochains mois, là, sur nos réseaux sociaux.
Excellent. Ça se fait une belle soirée, soit dit en passant. Une belle participation des parents, des jeunes.
Très familial, jeunesse. Évidemment, c'est notre public cible. Il y a très peu de ce genre de soirée pour les jeunes. À longueur d'année, on en a plus pour les adultes, les Comic-Con, etc. Et là, ça a été vraiment un franc succès. Plus d'une centaine de personnes pour une première. On était franchement contents. Alors, je remercie encore mon comparse Jonathan Reynolds qui a participé avec moi à la création de cette soirée. Merci à toi, Pierre, un de nos collaborateurs de la soirée.
Ça m'a fait plaisir. Je vais vous parler maintenant d'un livre que j'ai lu jadis, ouais. Qui est paru dans les années 60.
Quand même.
Oui, c'est deux individus, mais de...
deux individus.
Ouais, des individus. Il y a Louis Powers, qui est né en 1920, qui est d'abord journaliste, puis écrivain et fondateur en 1961 de la revue Planète, que j'achetais à l'époque, qui était très intéressant. J'en avais conservé un exemplaire pendant des années, mais je m'en suis départi.
Oh.
Et il dirigea aussi l'encyclopédie Planète, entourée de chercheurs et de savants. Alors, donc, tu prends deux de pique. Et tant qu'à Jacques Bergier, le co-auteur, ingénieur, chimiste, né en 1912, à qui l'on doit d'importantes découvertes dans le domaine de la chimie et de l'électronique. Alors, ces deux personnes-là se sont réunies pour écrire ce qu'on a appelé « Le matin des magiciens » et qui est paru en 1960. Alors, moi, j'ai lu ça probablement fin des années 60, début 70. Et ce qu'il y avait de particulier avec cet ouvrage-là, qui a été décrié, évidemment, en France, on les connaît, hein, c'est qu'ils se sont dit, on va s'intéresser à un tas de phénomènes qui se sont produits dans le passé et on va regarder ça sous un autre angle, en se disant que ce n'était peut-être pas tout à fait ce qu'on pensait. Il y avait peut-être des choses plus secrètes ou plus surnaturelles qui ont peut-être eu lieu, mais pas certainement. Ils disaient jamais « on pense que c'est vrai, que c'est vrai
ouais. »,
mais ils se disent « pourquoi pas ?». Et entre autres, il y avait au début de longs chapitres sur les alchimistes. Les alchimistes sont des gens qui essayaient de transformer le plomb en or.
Ouais.
Et il y en a qui ont explosé avec ça, qui se sont tués littéralement. Ça n'a jamais fonctionné, mais l'idée était quand même, c'était tentant d'essayer. Ouais. Et moi, je me suis intéressé au chapitre qu'ils ont abordé pour les pyramides, et on va en parler après, et on va écouter mon dossier à partir des extraits écrits par Powers et Bergier.
Dossier. Histoire mystérieuse. Au sujet des pyramides, les auteurs du Matin des magiciens écrivent « Nous savons aujourd'hui que les pharaons ont consigné dans les pyramides les résultats d'une science dont nous ignorons l'origine et même les méthodes. On y retrouve le nombre pi, le calcul exact de la durée d'une année solaire, du rayon et du poids de la Terre, la loi de précession des équinoxes, la valeur du degré de longitude, la direction réelle du nord et peut-être beaucoup d'autres données non encore déchiffrées. Les auteurs s'interrogent, comment ont-ils été obtenus ou transmis, et dans ce cas, par qui? Les égyptologues écartent du revers de la main ces affirmations en affirmant que nulle science n'est inscrite dans la pyramide de Gizeh notamment. Mais, disent les auteurs, il n'en reste pas moins que la construction des pyramides témoigne d'une technique qui nous demeure totalement incompréhensible. Gizeh est une montagne artificielle de 6500 tonnes. Des blocs de 12 tonnes sont ajustés au demi-millimètre. L'idée la plus plate et la plus fréquemment retenue pour expliquer de telles constructions, c'est que le pharaon aurait disposé d'une main-d'œuvre colossale. Il reste alors à expliquer comment a été résolu le problème de l'encombrement de ces foules immenses. Comment les blocs ont-ils été extraits des carrières? les égyptologues classiques n'admettent comme technique que l'emploi de coins de bois mouillés introduits dans les fissures de la roche. En outre, les constructeurs n'auraient disposé que de marteaux de pierre et de scies de cuivre, métal mou. On peut aussi se demander comment des pierres taillées de 10 000 kg et plus ont pu être hissées et jointes. Pavos et Bergier font remarquer qu'au 19e siècle, on a toutes les peines du monde à acheminer deux obélix que les pharaons faisaient transporter par douzaines. Les auteurs émettent l'hypothèse qu'une pensée toute différente de la nôtre ait pu concevoir des techniques aussi perfectionnées que les nôtres et des méthodes de manipulation de la matière sans rapport avec ce que nous connaissons, ne laissant aucun vestige apparent à nos yeux. Tout cela est-il possible? Nous n'en savons toujours rien.
Franchement intéressant.
Tu peux le dire.
Ça fout la chienne, légèrement.
Mais ce qui est particulier, c'est que sur YouTube, évidemment, ce que vous venez d'entendre, on en retrouve des choses, là, vous pouvez en visionner pendant des centaines de documents dédiés à la construction des pyramides. Et dans plusieurs de ces vidéos, on traite de théories mathématiques fondées ou ésotériques, de l'architecture extérieure, intérieure, de ces fantastiques monuments. Et dans d'autres, des experts expliquent les méthodes de construction, le travail de coupe des blocs de pierre et de leur assemblage. Alors, comme on l'a vu dans le dossier, les deux auteurs s'interrogeaient comment on a réussi à faire ça.
Ah ouais.
Ça prenait des milliers, des centaines et des milliers de travailleurs, etc. Hein. Puis de précision aussi, hein?
Ah
un
oui.
demi-millimètre, les pierres, là, des tonnes.
Et tu savais que les pyramides de Gizeh au Caire sont pointées directement en fonction de c'est trois étoiles en particulier dans le
tout
dans,
à fait
dans le ciel.
Et il y en a même que
lorsqu'on
regarde les vidéos sur YouTube, il y en a même qui expliquent que c'était peut-être des centrales électriques aussi.
Ah oui.
Ces pyramides, parce qu'il y avait là-dedans du cuivre, il y avait du cobalt, je pense, en fait des matières qui conductrices d'électricité. C'était peut-être des centrales électriques. Bon, en tout cas. Mais il y a aussi ceux qui illustrent en animation leur théorie personnelle, et c'est ça qu'on voit pendant que je parle, là,
oui.
sur la façon dont les Égyptiens s'y sont pris pour construire les pyramides. Alors, pour un, c'est grâce à un système de palans et de poulies
oui.
qu'on est parvenu à soulever et à faire glisser des blocs l'un par-dessus les autres. Pour deux autres, c'est en utilisant la force de l'eau dans des couloirs et des bassins de pierre qu'on serait parvenu à soulever les blocs en les faisant ensuite circuler l'un à la suite de l'autre. Dans un cas, on aurait enchaîné à chaque bloc des sortes de ballons pour leur permettre de flotter jusqu'à destination. Mais lorsqu'on regarde la vidéo que vous voyez, ouais. les extraits, là, ça s'en va comme des petits cubes, ça s'en va puis ça monte.
Ça a l'air facile.
Ça a l'air facile. Puis là, rendu en haut, il y a des gens qui poussent un peu avec un bâton, puis poup, c'est fait. Alors, disons que c'est très rigolo à regarder, mais ça ne semble pas tenir la route.
Mais ça me fait penser aux fameuses pierres de Stonehenge en Angleterre, les pierres qui ont formé ce cercle fait par des druides à l'époque. Ces pierres, on se sont rendus compte, les chercheurs, qu'ils provenaient de milliers de kilomètres beaucoup plus loin. Comment ont-ils fait pour amener ça jusque-là?
Tout
encore
à fait.
Là, c'est des mystères et boules de gomme.
Voilà. Alors, le dossier vous a permis de comprendre que les deux auteurs se posaient des questions.
Ben
aujourd'hui,
oui.
si on va sur YouTube, si vous voulez le faire, vous allez découvrir des experts, là, des archéologues qui vont vous dire « Bon, c'était comme ça, regardez, on coupait comme ça,
ben
puis
oui.
c'est... »
D'autres, c'est des soucoupes volantes qui venaient aider les Égyptiens à monter les pyramides.
Ben, c'est ça que laisse sous-entendre
voilà.
les deux auteurs également. Et je continue avec ces deux auteurs parce que dans d'autres chapitres, ils nous exposent certains faits troublants. Par exemple, on aurait trouvé dans des cavernes du Bohistan des inscriptions accompagnées de cartes astronomiques représentant les étoiles dans la position qu'elles occupaient voici 13 000 ans.
Wow.
Et en plus, il y avait des lignes qui reliaient Vénus à la Terre. Et j'ai vu d'ailleurs au sujet de Vénus qu'elle est comparable en dimension à la Terre.
Ah.
Intéressant, mais invivable évidemment.
Je pensais.
Plus étonnant encore, sur les cartes géographiques d'un officier de marine turc qui l'a découvert en Orient au milieu du 19e siècle, et les plus récentes datent de Christophe Colomb, les plus anciennes du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors les unes copiées sur les autres. vous me suivez bien?
Oui.
Et par la suite, un cartographe reconnu a eu l'idée de reporter ses cartes sur un globe moderne du monde. Mmh. Et celles-ci sont exactes, non seulement pour la Méditerranée, mais pour toute la Terre, y compris les Amériques, l'Antarctique. Oui. Et ces cartes pourraient-elles avoir été tracées à partir d'observations faites à bord d'un engin volant ou spatial, s'interrogent les auteurs du matin des magiciens.
Il faut avoir un recul certain pour voir, pour dessiner les continents.
Bergier et Pavos rapportent une étude publiée en 1959 par le professeur Engrest qui admet l'hypothèse d'une visite ancienne de voyageurs interplanétaires. Oh. Par exemple, des textes de la Bible parlent de souvenirs d'êtres venus d'ailleurs qui disparaissaient pour remonter au ciel dans des arches mystérieuses. Alors, ce qu'on voit d'anciennes toiles qui ont été peintes, on dit c'est religieux, bon, c'est comme si Dieu était sur un nuage, puis tout ça. Bon. Par ailleurs, des ouvrages sacrés hindous décrivent les aéronefs qui circulent dans le ciel à l'origine des temps et qui ressemblaient à des nuages azurés en forme d'œufs ou de globes lumineux. Ils pouvaient faire plusieurs fois le tour de la Terre. Ils étaient actionnés par une force éthérée qui frappe le sol au départ, ou par une vibration émanant d'une force invisible. Et là, en va de même, chez les Égyptiens, dont certaines gravures présentent ce qui ressemble à des soucoupes volantes, des vaisseaux spatiaux et même des visages d'extraterrestres. D'ailleurs, on voit ça dérouler au moment où je parle, pour ceux qui nous écoutent en visuel.
Et ces sujets-là nous ramènent pratiquement à notre premier épisode du CFLC Balado. Hein?
C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vu dans un dessin ancien qu'on a vu passer, là, la fameuse soucoupe volante là, qui avait été vue en beau, je pense, ressemblait à une bouche ouverte. Là,
oui.
Il y avait un pilote dedans. Mais ça, c'est dessiné aussi anciennement chez les hindous, ça.
Eh bien, vois-tu, il y a beaucoup de similitudes.
C'est ça. Et je termine avec le matin des magiciens. Voici un événement stupéfiant rapporté dans ce livre. Le 23 février 1957, un homme grenouille recherchait le corps d'un étudiant noyé dans le lac du Diable, en Bohême. Il remonta à la surface, pâle, d'épouvante, incapable d'articuler un son. Quand il eut retrouvé l'usage de la parole, il révéla qu'il venait de voir, sous les eaux froides et lourdes du lac, un alignement fantomatique de soldats allemands en uniforme, une caravane de chariots attelés avec des chevaux debout.
Roulolo.
Alors, j'ai mis des images là-dessus, là, mais j'ai pas réussi à trouver cette illustration. J'ai mis quelque chose qui ressemblait un peu à ça, un fond de lac, là. Alors, donc, le matin des magiciens, c'est ça.
Ouais, c'est impressionnant.
Et d'ailleurs, on a vu la jaquette du livre que j'ai présenté également. Ça, c'était la version livre de poche, là, mais qui s'est vendu énormément à l'époque, parce qu'il faut dire que dans les années 60, j'y étais, je m'en souviens, tout ce qui était un peu volant mystérieux et ésotérique, là, on était
en plein dedans,
puis on savourait ça comme si c'était quelque chose de fondé. Mais là, le temps a passé, puis du surnaturel, on en voit au cinéma, mais y en a-t-il vraiment sur Terre?
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est le rêve de l'homme de s'imaginer qu'il y a quelque chose de peut-être plus fort, plus mystérieux que lui-même. C'est sûr qu'on aime ça se raconter des histoires, faut pas se le cacher. Donc que tout soit rationnel et que tout soit explicable, à un moment donné, mais ça enlève un peu de magie, d'imaginaire. Ouais. Donc on a toujours eu besoin de ça depuis qu'on est enfant.
Et toi, ce que tu racontes dans tes histoires, c'est ça avec tes web-séries pour jeunes, là, ça fout la chienne.
Exact.
Et bien voilà, ça va débouler. Oh. Et toi, tu t'en vas dans les momies maintenant.
Oui.
On va pénétrer dans les pyramides.
Exactement, mais tout de suite après cette pause.
Vous écoutez CFLC Balado sur Balado Québec. Vous pouvez nous regarder sur les pages Facebook, Ça fout la chienne, Capron Productions et celle de Pierre Duquet, et sur YouTube au même nom de chaîne.
Oui, à défaut de faire une chronique cinéma...
Je fête avec mon verre de vin, allez, fête ta chronique.
Allez, parle, connard. Alors, je vais vous parler en fait du personnage de la momie dans l'histoire du 7e art, dans le cinéma. Donc, la momie qui est un personnage immortel, toujours ressuscité.
C'est pas un film de Dolan, ça, là?
Non, oui, aussi. Mais on parle pas de la même chose. Donc, les cadavres recouverts de bandelettes nous ont toujours fait frissonner depuis des siècles. Les momies sont devenues des monstres classiques du cinéma et un bon moyen d'attirer les spectateurs en quête de sensations fortes. C'est en 1932 que les momies prennent d'assaut le 7e art. Je sais pas si tu t'en souviens, Pierre, étais-tu là? Non, pas en 1932. Tu n'étais pas encore,
mais j'ai probablement vu des films de cette époque qui sont apparus en noir et blanc.
Oui, absolument.
Il y avait l'homme invisible qui avait l'air d'une momie aussi.
Aussi, oui, effectivement. Et donc, les momies ne cessent de revenir au cinéma alors que les films dont elles sont les héroïnes s'enchaînent et se ressemblent, perdant parfois en qualité. La momie est un monstre donc indétrônable des films d'épouvante et que les studios ressuscitent en permanence. Un personnage qui fascine depuis la légende de Toutankhamon, dont je vais vous parler parler ce soir dans mon histoire qui fout la chienne, en fin d'émission. Bien avant de fasciner le public des salles de cinéma, les momies étaient les stars de la littérature du 19e et du 20e siècle. Théophile Gautier publie le roman de la momie sous forme de feuilleton entre 1856 et 1857, décrivant la vie de Théodore, une momie égyptienne découverte par un aristocrate anglais. Sir Arthur Conan Doyle, grand spécialiste des romans d'épouvante, écrit en 1924 la nouvelle « Une momie qui ressuscite ». Donc, les momies vengeresses apparaissent au début du 20e siècle, créées par la légende, donc, comme je le disais, de Toutankhamon et de sa malédiction. La figure de la momie venue venger l'affront fait à son tombeau devient alors un mythe populaire et dépasse les frontières de la littérature. La momie aurait pu rester un personnage de conte et de légende si les studios hollywoodiens ne s'étaient pas intéressés à elle.
Évidemment.
Universal Pictures repère le filon en 1930 et produit le premier film intitulé sobrement La momie. Il raconte le retour à la vie par accident de Imhotep qui décide de prendre une nouvelle identité parmi les vivants. Savant mélange de films d'horreur et d'histoires d'amour, c'est un succès qui popularise la figure de la momie. Et après cette introduction au personnage, on suivit bon, 5 autres films qui se sont enchaînés jusqu'en 1955. On pense à La main de la momie, La tombe de la momie, La fantôme de la momie, Le fantôme de la momie, La malédiction de la momie, Denigo et la momie.
Ah, oh, Denigo, ça dit quelque chose.
Ça dit quelque chose. Ouais. Bon, on doit être à la fin des années 50 ouais. À ce moment-là. Immortel, la momie ne disparaît pas avec les derniers films et connaît une seconde jeunesse 4 ans plus tard, dès 1959. Hammer Film Production débute sa série avec La malédiction des pharaons, donnant le rôle de la momie à Christopher Lee. Après 2 autres films en 64 et 67, la créature rend son dernier souffle. 28 ans plus tard, le monstre revient une nouvelle fois dans les salles obscures du monde entier pour une série de 3 longs métrages de 1999 à 2008. J'ai connu cette période, j'étais à la fin de mon primaire et début secondaire.
J'ai dû sauter ça aussi.
Avec Brendan Fraser qui a rapporté 1,2 milliard de dollars de recettes à Universal et s'impose comme un classique. Même encore aujourd'hui, ça s'écoute très bien. C'est un super divertissement qui ressemble un peu aussi à Indiana Jones avec les boutades et les jeux de mots et les pinces
sans rire. Mais là-dedans, les momies se bougent, sont vivantes?
Ah oui, ben Imhotep est de retour okay. Et donc ils vont réveiller avec le livre des morts, la momie, et il fait machin. Je peux te le dire. Et Tom Cruise et Universal s'y sont attaqués à nouveau en 2017, mais pas avec autant de succès. Donc, l'attachement du public à la momie peut s'expliquer par sa nature de monstre. Nous revenons toujours à elle, car c'est un ennemi presque immortel. Elle met les héros à dure épreuve en résistant aux balles, au feu et en étant quasiment impossible, donc, à tuer. Comme les bêtes féroces ou imaginaires qui peuplent les films d'épouvante, à l'instar de Dracula ou de Frankenstein, la momie nous fascine par son étrangeté et par le mystère qui s'en dégage. Si les films ne sont pas forcément des succès critiques, ils attirent le public parce qu'ils promettent de faire frissonner avec une créature donc hors du commun. Alors je ne sais pas si vous avez une vieille momie, une grand-maman, une vieille tante cachée quelque part, vous pouvez la sortir.
Mais c'est fascinant de penser que pendant des millénaires, un pharaon ou une pharaone, je ne sais trop.
Il y en a eu aussi.
C'est ça.
En Ubi.
A été emballé dans une avec une technique très spéciale. Et quand tu retrouves ça, on en a retrouvé une. C'est Toutankhamon qu'on a retrouvé, qu'on a
enlevé
les bandelettes.
Ouais.
Là. Alors, on voit encore un corps, pas un squelette, mais un corps.
Très bien conservé, mais tu savais comment il extirpait les organes. Il sortait le cerveau par le nez avec des pinces, puis il mettait ça dans des petites canules qu'on appelle là, des petits amphores à côté, puis on mettait tous les organes vitaux. Mais le corps se desséchait et on sait que le climat du désert fait que tout peut se conserver. On n'est pas dans l'humidité.
Mais il y a les bandelettes aussi qui servent à quelque chose.
Oui, qui étaient trempées aussi dans une mixture quelconque.
Puis en principe, une fois le lieu scellé, j'imagine qu'il n'y avait plus d'air.
Ben, l'air devait s'éclipser au fil des siècles parce qu'on s'entend, ils sont restés 3000 ans dans ces salles-là. C'est quelque chose.
Incroyable.
Ouais, c'est fou.
Je voyais en faisant mes recherches sur YouTube, sur les pyramides, qu'on disait qu'on avait réussi à déterminer par des ossements que c'était pas des esclaves qui servaient à construire les pyramides, c'était du bon peuple. Compte tenu de ce qu'ils ont pu dire, ils étaient bien nourris, etc., etc. En tout cas, c'est des recherches qui tendraient à prouver ça, alors que d'autres pensaient que c'était des esclaves, et d'autres pensent que finalement, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'ils étaient aidés par des technologies qui... Bon, c'est ça pour soulever tous ces blocs. Imagine une technologie extraterrestre, des petits blocs de plusieurs tonnes, tu sais, 1, 2, 3, tac, 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 tac.
Ça fait penser à Astérix et Cléopâtre avec la potion magique, les blocs en volaient, vite.
Mais ça demeure quand même un grand mystère, bien que certains tentent de l'expliquer. Ça avait peut-être pris une vingtaine d'années à faire Gizeh. Oui. Rapportons. À une vingtaine d'années, alors que nous, aujourd'hui, ça prendrait peut-être 100 ans au rythme où vont les projets de tramway, puis les projets de ponts, puis de tunnels.
On fait des viaducs, puis au bout de 30 ans, ça nous tombe sur la tête. Ouais. Imagine eux autres, là, c'est fascinant, 4000 ans, c'est encore là.
C'est de la réflexion. Absolument. Et toi, tu nous plonges dans quelques instants...
dans une histoire qui fout la chienne. Alors, comme je vous en parlais dans ma chronique cinémaniaque, je vous fais allusion à la malédiction de Toutankhamon, donc un jeune pharaon, je crois, d'une vingtaine d'années qui avait été retrouvé au milieu du siècle dernier. Donc, je vous raconte en survol ce qu'il en a découlé de toute cette histoire.
Il est l'heure de se faire peur, avec une histoire qui fout la chienne. La malédiction de la momie. Les Égyptiens accordaient une grande importance au culte des morts. Les corps momifiés des rois et des gens ordinaires étaient placés dans des tombes où l'on déposait tout ce qui était nécessaire à la vie. Pour protéger les morts dans la vie future et pour empêcher les voleurs ou des ennemis politiques de violer les sépultures, les tombes étaient construites dans des endroits secrets isolés et une malédiction était lancée contre les profanateurs. La croyance en la malédiction de la momie fut ranimée lorsque Lord Carnarvon, qui finançait les fouilles archéologiques de Howard Carter, mourut 5 mois après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Il fut emporté par un empoisonnement du sang provoqué par une piqûre de moustique ayant causé une infection. Avant son décès, Carter avait acheté un canari dans une cage dorée, pensant que son chant l'éguerrait dans sa maison solitaire. Lorsqu'il vit l'oiseau, un de ses serviteurs s'exclama « C'est un oiseau d'or qui nous portera chance. Cette année, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons trouver une tombe remplie d'or. » Dans la semaine qui a suivi l'achat du canari, Carter a découvert la tombe de Toutankhamon. Comme il ne savait pas qui en était l'occupant, les ouvriers l'avaient surnommée « la tombe de l'oiseau d'or ». La mort du canari à cet heureux moment fut considérée comme un mauvais présage. Voici le récit de ce qui arriva aux Canaries, tiré du rapport de l'inspecteur général en charge des Antiquités. Au cours des récentes fouilles qui ont permis de découvrir la tombe de Toutankhamon, M. Howard Carter avait dans sa maison un canari qui le régalait tous les jours de son chant joyeux. Un jour, toutefois, celui où on a mis à jour l'entrée de la tombe, un cobra est entré dans la maison, s'est jeté sur l'oiseau et l'a avalé. Or, les cobras sont rares en Égypte, et on en voit peu en hiver. Mais dans les temps anciens, ils étaient considérés comme le symbole de la royauté, et chaque pharaon portait ce symbole sur son front, comme pour signifier son pouvoir de frapper et de piquer ses ennemis. Qui sait? Certaines personnes pensent que la malédiction jetée sur la tombe de Toutankhamon et celle de ses ancêtres pour les protéger a pu être à l'origine de ces deux morts.
Ah, imagine, parce qu'il pouvait y avoir des virus là-dedans.
Absolument.
Tu sais, en allant découvrir des lieux qui ont été fermés pendant des millénaires. Là.
Des fois, c'est des coïncidences. On aime ramener ça, comme je le disais. C'est...
une malédiction parce qu'on a approché, on a violé la tombe, en sorte. Les archéologues, c'est ce qu'ils faisaient.
Exactement. Puis on répartit les objets qui se trouvaient dans la salle un peu partout dans les musées. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette émission imprégnée de la chaleur du désert du Sahara.
C'était la 6e.
Oui.
6e balado. Et on s'en garde un pour...
la Nile.
Oui, c'est ça. Ce sera donc, si je regarde mon calendrier, ce sera donc le 6 décembre
pour la prochaine. Pour la 7e émission.
Ouais, pour la 7e. Je ne sais pas s'il y a des contes macabres de Noël, mais on va fouiller...
Ah, il y en a, c'est sûr. C'est sûr.
On va se faire plaisir.
Excellent. Alors, sur ce, merci d'avoir été là. Continuez à vous raconter des histoires qui foutent la chienne. Et sur ce, on vous dit...
Au revoir.